notre part, nous allons dans 1 Timothée. Nous allons lire juste 3 versets. On va s'introduire avec ça, on va voir. J'y vois thématique, c'est rare. Ben, c'est pas rare, mais habituellement, on est dans un livre. Ben, on l'est dans les mercredis soirs. Ça se peut, par contre, que lorsqu'on va avoir terminé cette série, qu'on termine dans 2 messages, dans le fond, ce message aujourd'hui puis le prochain, ça se peut qu'après, on aille dans un épître. Il y a eu de l'information qui a coulé, comme on dit dans le journalisme. Il y en a qui savent peut-être de quoi je parle, puis d'autres, ben, je vous laisse en haleine. Sinon, il n'y aura plus personne les dimanches après-midi, ça va être poche, là. Au moins pour un dimanche, on va avoir du monde que je vais regarder en haleine. Un Timothée. Un Timothée 1. Pendant que je dis des balivernes, là. OK, donc 1 Timothée 1, on va simplement lire les versets 3 à 5 pour commencer. Et ensuite, je vais vous partager des choses par rapport à notre marche par la foi. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une foi sincère, la marche par la foi, c'est ce qu'on va considérer ensemble. Donc, je veux qu'on regarde ensemble, dans le fond, ce qui va nous servir de conclusion à cette série, en 2 messages. Mais Dieu nous a donné sa parole pour que, par son esprit, hein, on puisse devenir tout ce qu'il a voulu que nous soyons en nous sauvant. Hein, lorsque Dieu nous a sauvés, c'est pas comme un hasard. « OK, vas-y, à la voix comme je te pousse. » Non, non, on a un Dieu d'ordre. On a un Dieu qui sait où est-ce qu'il s'en va. Puis, il nous a sauvés pour un but. Et, ben, on peut dire, en résumé, le but, c'est pour porter du fruit pour sa gloire. C'est pas pour moi qu'il l'invente. Je vais vous le dire des lèvres du Seigneur Jésus ici dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et que votre fruit demeure et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Maintenant, le message d'aujourd'hui, puis celui, ben pas la semaine prochaine, l'autre d'après, comme je le disais, c'est la conclusion de cette série sur notre vie victorieuse en Jésus-Christ. Puis juste pour qu'on puisse faire une petite rétrospective, ce qu'on a vu dans cette série-là, dans le fond, d'abord, on s'est arrêté à savoir qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Connaître, c'est quoi? Notre identité en Jésus-Christ. En gros, on est des saints. Hein? Dieu a fait de nous des saints. C'est pas Saint Jean-Pierre, Saint Sébastien. Là. C'est l'idée que Dieu nous a mis à part. La sanctification. Hein? On est en Jésus-Christ. On est des saints. C'est notre identité. Et il nous appelle à vivre dans sa présence à la lumière de ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ par son esprit. Ça, ça a été un premier bloc. Ensuite, on a vu comment résoudre nos problèmes personnels. Hein, on a considéré dans ce sens-là nos responsabilités. Hein, la vie chrétienne, c'est pas c'est pas passif, on est là assis. Non, on accède à notre liberté en Christ en assumant les responsabilités que Dieu nous a données. Et ça nous amène à détruire, renverser les forteresses. C'est la troisième chose qu'on a vue. Par le renouvellement de l'intelligence, hein, on a vu qu'on renverse les forteresses. Les forteresses, c'est des façons de penser, des choses établies dans nos vies. On a toujours été habitués de même, mais Dieu, dans sa grâce, avec sa parole, au moyen du Saint-Esprit, renverse les forteresses, brise ces choses qui nous tiennent captives, puis nous donne, il nous fait jouir de cette liberté que nous avons déjà en Jésus-Christ, et il nous y donne accès comme ça de plus en plus par la sanctification, par la marche, par le Saint-Esprit. Et, ben, tu sais, c'est ça. Ça, c'est en gros pas mal ce qu'on a vu, mais on a considéré tout ça, pas mal, je dirais, en long puis en large. Puis là, on est rendu vraiment à clore un peu tout ça, cette série-là, avec notre marche par la foi. Dans le fond, garder les choses, keep things running, comment qu'on dirait ça, de garder les choses en branle, de garder les choses qui puissent continuer à aller dans ce sens-là. Fait qu'on va considérer dans cette conclusion de série 8 éléments fondamentaux pour marcher par la foi. Fait qu'il y a des éléments de révision, mais ça nous aide à établir les choses pour vraiment aller de l'avant avec ce qu'on a appris. Donc, 8 éléments fondamentaux dans notre marche par la foi. Parce que là, on a appris des choses, c'est beau, notre victoire en Jésus-Christ, mais là, on veut marcher dans ces choses. On veut, continuer pas à pas à avancer là-dedans. Okay? C'est pas juste quelque chose qu'on a pu le passer, puis on tourne la page. Non, ça fait partie maintenant de notre ADN, et maintenant, on veut avancer à la lumière de ces vérités. Donc, 8 éléments fondamentaux pour cette marche par la foi. D'abord, le succès provient du fait d'avoir les bons buts. Le succès provient d'avoir les bons buts. Là, quand je dis succès, je m'attends vraiment à ce que vous compreniez le sens biblique du mot succès, comme dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, le succès aux yeux de Dieu, c'est de marcher de façon à ce qu'on on marche dans tout ce que Dieu a pour nous autres. On rentre dans les buts que Dieu a pour nos vies. Et ça, c'est important de les connaître. Ces buts-là. C'est quoi le but de Dieu avec ma vie? Bon, un grand but, Dieu veut se glorifier dans ma vie, il veut, OK? Y a-t-il des buts plus spécifiques? Ben, le succès provient du fait de, justement d'avoir les bons buts, les buts de Dieu, et non pas les nôtres. Et maintenant, je pose la question, si Dieu veut accomplir de quoi dans notre vie, puis il nous le demande, est-ce que c'est possible? Là, tout le monde, on est à l'église, puis on essaie que dimanche matin, la réponse pour dire, c'est oui. Hein? Ouais, on va dire, mais oui, c'est possible, si il nous le demande. Mais dans notre cœur, des fois, c'est pas si évident. C'est comme si Dieu nous demande de faire des affaires que, voyons, c'est quelque chose que Dieu aimerait bien que tu fasses, mais il sait que tu seras pas capable, mais essaye pareil. Est-ce que tu qu'il y a ces pensées-là un peu qui s'émissent des fois dans notre façon de penser? Ah, c'est pas possible, mais tu sais, c'est pas grave, essaye pareil. Puis... Non, si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que il nous rend capable de le faire. Et ça, malgré les circonstances et malgré les personnes, parce qu'on peut dire, hey, moi, ça irait bien ma vie si j'avais pas toutes ces personnes-là qui me mettent des bâtons dans les roues, puis toutes ces circonstances-là qui font que ça va mal. Ben, bienvenue dans le club, c'est ça la vie sur Terre. Tu sais, tout ça sur un île, on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas grand-chose non plus, mais bon. Mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, Dieu, il sait, puis il nous a mis dans ce monde, puis il nous aime. Fait qu'il ne va pas nous demander des affaires qu'on ne peut pas faire, puis il sait qu'on a des circonstances, des personnes qui font aussi partie de l'équation. Mais ce qui est important à comprendre, c'est, OK, c'est quoi le but de Dieu avec ma vie? Puis pour aider à comprendre ça, je vais vous lire quelques versets de la parole qui vraiment nous aident à comprendre la perspective générale là-dessus. J'y réfère souvent, mais vous connaissez 2 Pierre 1-3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui, une personne qui nous a appelés par sa gloire et sa propre vertu. D'abord, en partant, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Plus j'apprends à connaître Dieu, à marcher avec lui, je vais avoir absolument tout ce que j'ai besoin. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ensuite, au verset 4 du même chapitre, ça dit « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, Pierre nous rappelle qu'on est participants de la nature divine. Fait que ça, comme point de départ, là, OK, je suis complet, j'ai absolument tout ce que j'ai besoin. Je suis complet en Christ, OK, j'ai tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Puis en plus, je suis saint de bord en bord. OK, je suis participant de la nature divine. Dieu a fait quelque chose, un projet totalement neuf. C'est comme clé en main, Dieu en me sauvant. Je suis une nouvelle création. Ça, c'est le point de départ. On part tous sur un même pied d'égalité par la grâce de Dieu. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, c'est là qu'on part. On a tout ce qu'on a besoin, participant de la nature divine. Maintenant, ça continue dans les versets suivants, puis ça nous parle de d'autres choses. Ça dit au verset 5, « À cause de cela même, là, ce qui vient d'être dit, la merveilleuse provision de Dieu, ça dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Puis là, il y a la liste qui s'en vient, mais avant, je veux juste vous dire que tout commence avec la foi. D'abord, la foi qui sauve. Il n'y a pas d'extraordinaire, il n'y a pas de surnaturel dans la vie de quelqu'un tant que Dieu n'est pas là dans sa vie. Et ça, c'est par la foi. On reçoit Christ par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, on ne vit pas par une espèce de version améliorée d'une vieille religion ou une version améliorée de nous autres. J'ai essayé dans ma vie, puis là, ben là, j'essaye de mon mieux avec un nouvel... les Anglais disent « turning a new leaf », tu sais, essayer de... Oh, OK, je me renouvelle. Non, non. Par la foi en Christ, on a une vie nouvelle, et ça, c'est le commencement. Donc, à la foi, on fait tous nos efforts. Et ça, l'idée d'effort, là, c'est une dépendance consciente et volontaire à Dieu. Je fais l'effort de me garder dans cet état de dire « je ne suis pas capable par moi-même ». J'ai besoin de Dieu. Christ est ma vie, c'est plus moi qui vis. C'est un effort, là, parce que vous quoi, si on ne fait rien, on va dépendre de nous-mêmes. Fait qu'il y a un effort, on joint tous nos efforts à cette foi qui sauve, là, quand on est sauvé, qu'on a la vie de Christ. Là, on met tous nos efforts pour joindre à ça, première chose, c'est pour bâtir dans nos vies, les traits de caractère suivants, la vertu. La vertu, c'est l'excellence morale. C'est le caractère de Christ dans ses enfants. La connaissance, ici le mot connaissance, c'est pas juste « Ah, je connais mes maths, je connais la chimie ». Non, c'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance de Dieu. Apprendre à marcher, à connaître ses pensées, ses désirs. Aimer ce que lui, il aime. Ensuite, à ça, on ajoute la maîtrise de soi. Et certaines versions ont la tempérance parce que l'idée, c'est pas « Ah, je me maîtrise moi-même, puis... » Tu sais, j'aurais le goût vraiment de faire de quoi, mais là, je me sens les dents bien fort, je le ferai pas. C'est pas ça l'idée. C'est d'être contrôlé par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui essaie donc de me contrôler fort, c'est le Saint-Esprit qui me contrôle. C'est ça, la maîtrise de soi. C'est pas moi qui me maîtrise, c'est lui qui me maîtrise. La patience, c'est un mot intéressant. Ah, puis là, Sylvain n'est pas là pour faire ses jokes plates, là, mais c'est demeurer sous. Il dit, ah, demeurer sous, on ne devrait pas encourager l'alcool dans l'église. Mais oui, Sylvain. En tout cas. Mais vraiment, c'est demeurer sous la pression des circonstances, puis demeurer sous l'autorité de Dieu. Tu sais, il y a des choses qui nous pressent d'un bord, qui nous pressent de l'autre, des situations, des personnes, comme je disais tantôt, c'est long tenant, hein, la vie avec toutes ces choses-là. Ben, la patience, c'est demeurer sous l'autorité de Dieu à travers tout ça. La piété. Ça complète l'idée de la vertu, la piété. C'est le caractère, l'image de Dieu en nous qui est formée à travers la sanctification. Puis l'amitié fraternelle, traduit aussi différemment dans différentes versions. Philadelphie, c'est le, on peut dire la douceur dans les relations. Être agréable de compagnie. C'est au niveau fraternel, c'est ce que Jésus a demandé. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Puis il dit, est-ce que tu as cet amour pour tes frères, tu les aimes, puis tu as cette disposition face à eux? C'est la première question qu'il lui posait. Puis ensuite, il demande encore plus haut, est-ce que tu as aussi, quand ça parle de l'amour, certaines versions disent charité, as-tu l'amour agapé, l'amour sacrificiel, qui accepte de sacrifier, en en souffrir pour le bien puis le péché de Dieu? Cet amour christique, cet amour dont Christ est la mesure, OK? Donc, tout ça, c'est des qualités de caractère. C'est pas une affaire d'apparence ici, là. C'est des choses du cœur, qui émanent du cœur, régénérées. Parce que le but de Dieu avec nos vies, c'est de développer ce caractère-là. Christ en nous. C'est pour ça que ça nous dit que, vous connaissez Romains 8, 29. Moi, je le connais, mais là, je cherche ma feuille pareil. Voyons. Il est où? Romains 8, 29. « Car ceux qui l'a prédestiné, les a aussi... » appelé à être semblable à l'image de son fils. Pourquoi ça, il n'est pas sur ma feuille? Je suis posé, il est capable de tricher, mais là, je ne suis pas capable de tricher. En tout cas, puis afin que le fils soit le premier en tout, qui a la prééminence. J'avais écrit par cœur. Je t'espère de vous le dire par cœur. Fait que là, je me suis moi-même fait une jambette. Fait que là, je viens me planter devant tout le monde. OK, je vous en donne un autre qui va dans le même sens. Je me suis donné une petite chance, j'en ai mis un autre. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ça, c'est 2 Corinthiens 3, 18. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est la même idée d'être transformé à l'image de Christ. OK, c'est ça le but de Dieu avec nos vies. Et ça, c'est pas un job esthétique extérieur. C'est une job organique intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier souci de Dieu, c'est pas tant ce qu'on fait que ce qu'on est. Parce que ce que nous faisons découle de ce que nous sommes. Tu sais, je peux être un hypocrite, faire toutes sortes d'affaires que tout paraît beau, mais je suis un hypocrite pareil. Je peux aimer le Seigneur, puis des fois trébucher pour avoir de la misère, mais j'aime le Seigneur pareil. Ce que je suis, de ça va découler ce que je fais. La seule personne qui a parfaitement démontré les traits de caractère qu'on vient de lire dans 2 Pierre, c'est Jésus-Christ, évidemment. Alors, le but de Dieu avec ma vie, c'est que ce caractère-là soit de plus en plus, de gloire en gloire, de vertu en vertu, de trait de caractère de Christ en trait de caractère de Christ, que ça soit développé dans ma vie de plus en plus. C'est ça le but de Dieu avec ma vie. Maintenant, on va amener ça dans le concret. Puis, il y a un petit élément de révision dans ce que je vais vous dire, mais l'apprentissage vient par la répétition, donc c'est correct. On a considéré plutôt dans la série comment des fois, tu sais, on a des émotions négatives qui nous prennent. Okay? La colère, l'anxiété, la dépression. Puis vous rappelez-vous qu'on a dit que c'était comme la lumière dans le dash, la lumière dans le tableau indicateur. Il dit « Attention, il y a un problème. » Les émotions nous indiquent qu'en dessous du capot, il y a un problème. Quand il y a une lumière dans le dash qui allume, on ne répare pas le dash, on va voir le mécanicien pour qu'il aille voir ce qui ne marche pas sous le capot. Bien, les émotions qui sont là, la colère, l'anxiété, la dépression, nous montrent que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on a vu que c'est des avertissements qui nous montrent qu'on n'a pas le bon but. Et c'est pour ça qu'on devient anxieux, c'est pour ça qu'on devient colérique, c'est pour ça qu'on devient dépressif. OK? Ah, parce que c'est des buts qui dépendent de personnes et de circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Fait que ça ne va jamais arriver que ça va bien aller. C'est sûr que ça va générer ces émotions-là parce que on n'est pas fait pour les contrôler. Donc, je ne peux pas contrôler tout le monde autour de moi. Essayez pas. N'essayez pas ceci à la maison. Ça ne va pas bien. Okay? Puis essayez pas plus les circonstances. Ça ne marche pas non plus. Okay? C'est Dieu qui contrôle ça. Par exemple, moi, en tant que pasteur, je vais avoir un beau but très noble d'atteindre ma communauté pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un beau but, n'est-ce pas? Mais ça va être bloqué. Ce but va être frustré par chacune des personnes dans ma communauté. Il y en a un qui ne veut rien savoir. Il y en a un qui rejette. Je viens de signer ma propre déception, c'est en anglais. Je vais être déçu. Ouais, déception, c'est ça. Disappointment. Mais là, je me mêlais en anglais, français, excusez. Excusez, j'ai des fils qui se touchent après-midi. Non, c'est pas grave. Oh, merci pour les belles paroles!
L'illustration, c'est ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est ça. C'est-tu pas le Saint-Esprit qui a dit ça, là? Ou c'était la chair? Non, mais alors, venez avec moi, là. Un meilleur but, ça serait, je veux devenir le meilleur pasteur que Dieu veut que je devienne. Je veux devenir le pasteur que Dieu veut que je devienne. Ce but-là, ça va chasser cette tendance à la colère, l'anxiété, la dépression, de vouloir que la communauté soit comme ci puis comme ça. Puis, savez-vous quoi? Ça va m'amener de plus en plus à être comme Jésus-Christ, parce que je vais dépendre de lui. Puis, ça va susciter la confiance, la loyauté chez ceux qui sont appelés à me suivre. Puis, paradoxalement, savez-vous quoi? Ça risque très fort probablement d'avoir un impact sur la communauté. Oui, essayez de changer la communauté, laisse Dieu te changer. Puis lui va changer la communauté à travers ça. Deuxième exemple, comme je dis, il y a peut-être des éléments de révision là-dedans, mais un parent qui, dans un beau et noble but, veut des relations heureuses et harmonieuses dans sa famille. Est-ce pas quelque chose de bon? Absolument. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout le monde dans la famille peut être potentiellement un obstacle. Et là, ça va donner des tensions relationnelles. Hein? Il en a manqué une ici. Ah, c'est toi, ça? Hey, faites pas vos rigolos. On dit qu'il faut être très sérieux dans la maison. Comme vous voyez depuis le début. Non, mais juste pour vous dire que ici, c'est le mauvais but. Ça crée des tensions dans les relations. Même si le but est bon, il n'est pas réaliste. Parce qu'il faudrait que je contrôle les personnes ou les circonstances pour y arriver. Mais un bon but, c'est OK, je veux être le meilleur époux, le meilleur parent que Dieu veut que je sois. Je veux être le parent, l'époux, l'épouse que Dieu veut que je sois. Et là, savez-vous quoi? Lorsqu'on laisse comme ça Dieu travailler sur nous autres, la possibilité d'avoir la joie et l'harmonie dans la maison, parce qu'on n'est plus centré sur l'homme, sur les circonstances, sont beaucoup plus grandes. Parce que là, c'est Dieu qui est remis au centre de cette famille. Face à tout ça, peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose, puis je suis pas justement un très bon parent, je suis pas l'enfant modèle, de la misère au travail. Autrement dit, j'ai pas les talents, j'ai pas l'intelligence pour être ce que Dieu veut que je sois. Ou peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses qui dirait, « Ouais, mais mes circonstances m'empêchent d'atteindre ce but-là, d'être comme Christ. » Ben ceci, la réponse c'est, OK, dans 2 Pierre, pardon, chapitre 1, c'est où qu'il est question de talent, d'intelligence puis de circonstances? Nulle part. Quand on lit, là, dans 2 Pierre, là, il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Où ça parle de circonstances, de personnes, puis ça n'en parle pas nulle part. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas être mesuré par Dieu en fonction de nos talents, de notre intelligence, puis des circonstances, mais de notre caractère. De ce qu'on a laissé Dieu faire dans notre vie. De comment on l'a laissé nous transformer. C'est là-dessus qu'on va être jugé. Comment on a laissé nous transformer à la ressemblance de son Fils bien-aimé. Et vous savez quoi? C'est possible de ne pas avoir grand talent. Pas beaucoup d'intelligence non plus. Mais que le caractère de Christ est manifesté de façon glorieuse à travers nous autres. Et l'inverse est vrai aussi. C'est possible d'avoir beaucoup de talent puis beaucoup d'intelligence, tu vois, mais pas beaucoup reflété. Donc, c'est pas une question de moi puis ce que Dieu m'a donné puis des circonstances, c'est ce que Dieu fait en moi. OK? L'important, c'est de croire, hein, par la foi, que le succès provient, le succès biblique provient d'avoir les bons buts. Je vais arriver où est-ce que Dieu veut que j'arrive, autrement dit, si j'ai les mêmes buts que lui. Une deuxième chose que j'aimerais qu'on considère, c'est que notre valeur provient du bon usage de notre temps. Hein? C'est quoi le rapport? Écoutez, je vais vous expliquer. Vous connaissez Éphésiens 5, 16? Je sais que Sylvie Novard, tu l'as déjà récité, celle-là. « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Hein? Un beau verset qui en dit long. Et vous savez, il y a bien des affaires qui vont être oubliées dans notre vie. Il y a des choses qui ne vont pas passer le test du temps. Si ça ne passe pas le test du temps, c'est parce que ça n'a pas l'importance. Ça n'a pas une grande importance. Mais ce qui a une valeur éternelle n'est jamais oublié. Là-dessus, je voulais un passage d'Écriture qui est tellement beau. Ésaïe. Oh, il y a vraiment des perles dans Ésaïe. Ésaïe 49, à partir de 14. Sion disait l'Éternel. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ici, l'image est forte. L'image, c'est la permanence. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est indélébile. Pourquoi? Parce que Dieu a accordé une grande importance à Israël que même après le passage du temps, puis de l'épreuve du temps, puis des difficultés, puis tout ça, Israël n'allait pas être oublié. C'est à ce point-là qu'Israël a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous l'idée? Bon, mais si vous voulez grandir dans la valeur, l'importance de ce que vous faites, concentrez-vous sur ce qui fait une différence éternelle. Parce que le temporaire, le futile, non seulement nous laisse sur notre appétit, mais il nous laisse même avec un sentiment de vanité, comme Salomon. Hein? Ah, il a fait des choses, c'est quoi? Vous irez voir là, à Jérusalem, les affaires de Salomon, il n'y en a plus une qui est là. Ça n'a pas passé le test du temps. T'sais, il y a eu son temple, il y avait sa maison, les armées sont venues, bing bang, ils ont tout brisé. Puis, okay? Par contre, ce qui est écrit, ça nous est resté, parce que ça a une valeur éternelle. Ça, c'était pas une vanité. On a des grandes leçons par Salomon, hein, qui avait une sagesse que Dieu lui avait donnée. Mais dans le même sens, notre sens de valeur, là, de savoir qu'on laisse notre marque, qu'on a une certaine importance, qu'on fait quelque chose de significatif. Là, c'est pas pour l'idée de me glorifier, mais tu sais, dire, non, mon passage sur terre va juste être comme une feuille qui tombe d'un arbre, puis, OK? Ben, ce sens-là de valeur, de laisser une marque, d'avoir quelque chose de significatif est directement relié avec ce qui occupe le plus de mon temps. Ce dans quoi je vais m'investir. Est-ce que ça a une valeur éternelle? Mais quelqu'un va dire, ouais, moi je ne suis pas à temps plein dans le ministère, je ne suis pas un missionnaire, je travaille 40 heures par semaine, puis même plus. Oui, c'est vrai pour la majorité du monde ici, c'est moi qui ai l'exception, c'est vous autres qui êtes la norme. Mais savez-vous quoi? C'est vrai que Dieu vous a placé là pour que vous fassiez une différence éternelle là. Parce que même si on fait une chose mondaine, même si on fait une chose qui est mondaine dans le sens de, tu sais, ordinaire, tu sais, à notre job, tu sais, on regardait ici les jobs, tu sais, qu'est-ce qu'une valeur éternelle intrinsèque dans ce que je dans conduire un autobus, dans des imprimeries, puis bon, peut-être enseigner les enfants, bon, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça peut avoir une valeur éternelle, ça dépend comment je l'approche. Puis ça, ça va être l'investissement de mon temps, de mon énergie, il y a moyen de le faire en lui donnant une valeur éternelle. Donc, c'est pas nécessairement la chose que je fais, mais la manière que je le fais qui fait une différence éternelle. En le voyant comme mon champ missionnaire, en le voyant comme la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre. Et finalement, le troisième point, l'accomplissement provient de notre service envers les autres. Donc, le succès provient d'avoir les bons buts, succès biblique. La valeur provient du bon usage du temps. Et l'accomplissement provient du service envers les autres. Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Savez-vous que Jésus était l'homme le plus accompli, encore là, qui fut et qui a existé sur la terre. Lui était un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu et il mettait au service le don qu'il avait, les dons qu'il avait. Et Dieu nous a chacun créé, ou je devrais dire peut-être recréé, en Jésus-Christ de façon spéciale, unique, avec nos dons que lui nous a donnés pour servir les autres. Et paradoxalement, lorsque je bénis les autres, ça me bénit moi, ça me satisfait. Ça me donne un sentiment d'accomplissement. En contraste avec une vie égocentrique, puis je veux que tout le monde soit mes serviteurs, puis je veux les choses à ma façon, ça va me laisser sur mon appétit. Donc, le sentiment d'accomplissement, c'est par le simple fait, puis ça va faire le lien avec ce que je disais tantôt, de grandir là où Dieu t'a planté. Au lieu de rechercher toujours un meilleur sol ailleurs. Je répète, le sentiment d'accomplissement, c'est grandir là où Dieu t'a planté. Au lieu de chercher un meilleur sol ailleurs, le sol de circonstances différentes, de personnes différentes. Ces choses-là sont extérieures, mais l'accomplissement, c'est la réponse intérieure par la foi à ce que Dieu m'a donné dans sa souveraineté, dans sa bonté. Les personnes que Dieu m'a données pour interagir avec, les circonstances qu'il m'a données pour que j'y fasse confiance à travers ça, c'est ça qui porte du fruit dans ma vie. C'est Dieu qui décide. Dieu, chacun ici, nous a placés souverainement dans la famille qu'on a, dans l'église qu'on a, dans la rue sur laquelle on est, puis avec la job même qu'on a. Dieu est souverain. Puis là, je suis pas en train de dire que ça veut... Faut être statique, faut jamais changer. Dieu, des fois, peut nous réorienter. Il l'a fait avec beaucoup de ses serviteurs dans la Bible, mais je veux dire, quand on regarde, mettons, on prend une photo là de notre vie, ben là, c'est Dieu qui nous a placés là. Et j'aimerais dire que la bénédiction de Dieu, elle est là. Prenons l'Église. Tout le monde connaît le psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Mais quand il y a ça, cette unité-là, ça dit que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Pourquoi? Parce que quand on décide de grandir ensemble lorsque Dieu nous a plantés, Dieu bénit là. Et un point super important avec ce point-là que j'amène. L'accomplissement qui vient par mon service aux autres, même si ça me dérange, même si c'est pas ce que j'aurais voulu. OK, tout ça, dans le fond, c'est une question de foi dans la bonté, dans la sagesse de Dieu, dans sa souveraineté. C'est lui qui en a voulu ainsi. Est-ce que je l'accepte par la foi? Et pensez-y, si on refuse, si on regimbe, on s'en prend à Dieu. Puis on lui dit qu'il aurait dû faire autrement. En fond, c'est pas très sage que fait. Il est-tu vraiment bon? Ça doit nous garder vraiment humbles face à ça. C'est notre nature humaine qui est de même. Vous savez quoi? Tout le monde, on ferait le tour, là. On est tous des mécontents. On aimerait tous que ça soit différent. C'est la nature humaine qui est de même. Mais Dieu nous enseigne. L'esprit qui est en nous quand on est enfant de Dieu nous enseigne à être content dans l'état où est-ce qu'on se trouve. Paul, qui est un... Hein, on l'admire, Paul. Wow, quel apôtre. Il a appris, lui aussi. Il n'était pas content, Paul, dans les circonstances, mais Dieu lui a montré à être content. Il l'a appris. C'était pas acquis. C'était pas inné, c'est-à-dire. Ça a été acquis. Notre appel, c'est de servir ce que Dieu nous a donné. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Je viens avec les enfants que tu m'as donnés. On sait que notre premier père a dit, « Ah, c'est la femme que tu m'as donnée, Seigneur. » Et il était dans le trou parce qu'il s'en prenait à Dieu. C'est Dieu qui avait donné sa femme. C'est Dieu qui l'avait faite, littéralement. Fait qu'au lieu de blâmer nos problèmes sur les autres, sur les circonstances, puis de chercher mieux ailleurs, notre rôle, c'est simplement d'accepter ce que Dieu a fait, puis se voir comme un ambassadeur, là où est-ce qu'il nous a placés. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vrai pour chaque endroit que Dieu nous a placés. Il nous a plantés là pour que Christ pousse à travers notre vie. Donc, on peut être la réponse du Seigneur de... Hein, il a dit, prier le moment de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est partout, là. Elle n'est pas juste dans le champ missionnaire avec nos missionnaires qu'on soutient là, là. La moisson est partout, partout. Quand que... Donc, c'est ça que Dieu veut dans toutes les sphères de notre société, à travers tous ces enfants qu'il a répandus un peu partout. Puis des fois, on peut dire, ah, les missionnaires, c'est eux qui s'occupent de l'Évangile. Non, l'Évangile a été confié à tous les enfants de Dieu. Là où Dieu les a plantés. Et j'en ai un point là-dessus. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Idéaliser. Tu sais, c'est bon d'avoir des modèles. Tu sais, moi, il y a des gens là, que j'admire. Là. Tu sais, Georges Muller, là, excusez, mais... Hein, c'est un gars de prière de même qui fait confiance à Dieu. C'est hallucinant ce que Dieu a fait à travers lui. Mais lui-même le dit, regarde, j'ai rien de spécial. Là. C'est juste que quand je demande quelque chose à Dieu, j'y demande jusqu'à temps que j'ai la réponse. Puis il dit, j'y demande parce que je sais que c'est lui qui m'a dirigé à le demander. Fait que je fais confiance. Mais en même temps, Dieu ne m'a pas demandé à moi, Guillaume Marois, d'être Georges Muller, Watson Taylor. Puis lui aussi, c'est toute une autre histoire. Puis... OK, on peut les admirer, puis c'est bien. Ils nous encouragent dans la foi. C'est un peu comme les héros de Hébreux 11, là. OK, Dieu nous bénit par eux autres. Ils font partie du corps de Christ, mais Dieu ne veut pas qu'on soit eux autres. Il veut qu'on soit la personne unique qui nous a créé ou recréé en Jésus-Christ, là où il nous a mis. Parce que Dieu ne va pas nous demander « Pourquoi tu n'as pas été comme Georges Muller? Comment ça tu n'as pas été comme Hudson Taylor? » Il ne va pas nous demander ça. Il dit « Pourquoi tu n'as pas été toi? Pourquoi tu n'as pas été ce que j'ai fait de toi dans ma grâce? » C'est ça, simplement. Donc, ajoutons simplement foi à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu est déjà à l'œuvre. C'est quoi? Dieu est à l'œuvre dans l'adversité. Dieu est à l'œuvre dans les contre-coups, là, les choses contraires là, à ce qui s'oppose. Là. Dieu il a décrété ces choses pour sa gloire dans notre vie. On est simplement appelé à répondre par la foi. Et lorsque ça arrive, on va avoir vraiment le succès biblique comme dans Josué 1 parce qu'on poursuit les mêmes buts que Dieu. On va être comme Christ. On va avoir ce sentiment d'accomplissement parce que ce que Dieu nous a donné, on va bénir les autres avec. On va être au service des autres avec. Puis on va avoir ce sentiment d'avoir une valeur. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose d'éternel qui ressort de notre vie. C'est pas vanité des vanités. C'est des choses qui comptent pour jusque dans l'éternité. Je termine avec un beau passage d'Écriture. C'est mon invitation. C'est avec ça que je vais prier pour terminer. Puis je vais vous lancer l'invitation à prier à votre tour. C'est dans Ésaïe 55. Écoutez ce que ça dit à partir du verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Hein, vous auriez peut-être pensé un plan pour votre vie, une chose, OK, mais... « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes plans. » Puis regardez, quand, comme ça, on se confie dans cette sagesse divine. Quand on ajoute foi à l'œuvre de Dieu, du Dieu vivant dans nos vies, regardez ce que ça produit. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. L'œuvre éternelle de Dieu dans la vie de personnes comme vous et moi. Merci Seigneur que tu es ce Dieu de toute éternité et que tu nous fais, tes enfants, participer à ta nature même. C'est-à-dire que, Seigneur, tout ce qu'on fait en Jésus-Christ, par sa vie qui nous anime, a une valeur éternelle. Et ce n'est pas nécessairement les grandes actions d'éclat d'amener des âmes au Seigneur à toutes les semaines. Ou des fois, c'est juste un mot qu'on peut dire à quelqu'un qui va faire une différence éternelle. Oui, peut-être pour le salut de cette personne ou peut-être pour un frère, une sœur, les encourager dans la bonne voie. Des fois, c'est prier, des fois, c'est écouter. Peu importe c'est quoi, Seigneur, on te remercie que tout ce que tu touches, tu le rends beau, tu lui donnes vie. Et donc, Seigneur, touche nos cœurs. Touche-nous, Seigneur, par ta bonté, au lieu qu'on regarde à nous-mêmes. Puis tu vois, c'est difficile la vie ici. Bon, notre monde est brisé. Mais Seigneur, on veut regarder à toi. On l'a vu ce matin, Seigneur, nos cœurs se troublent. On est honnête avec toi après-midi, Seigneur. Ils se troublent. Tu nous as dit qu'ils ne devraient pas se troubler. Puis on le sait. La vérité, Seigneur, c'est que souvent, ils sont troublés. On trouve ça dur, les circonstances. C'est difficile, les relations interpersonnelles. Mais Seigneur, on vient à toi humblement, en avouant ces choses, en te les confessant, mais aussi on vient à toi qui es la source d'eau vive, à toi qui change le désert en oasis, à toi qui es le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire que tu fais ce qui est impossible à nous autres de faire. C'est à toi qu'on regarde, c'est toi qu'on invoque, Seigneur, là où on est rendu chacun. Glorifie-toi dans nos vies, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.